France Inter, le 18-20.
En général, on ne veut pas faire semblant de découvrir les appétences des auditeurs de France Inter. Quand on annonce des sujets liés à l'éducation, on sait que les standardistes du téléphone sonnent, auront du travail. Et ce n'est pas la première fois que le ministre de l'Éducation nationale vient nous voir. Mais ce soir, vous avez visiblement très envie de lui parler, si on en juge par le nombre de remarques, de questions, de témoignages qui tombent sur le mail de l'émission, sur mon compte Twitter aussi depuis ce matin, et au 01 45 24 7000. Jean-Michel Blanquer a longtemps été le ministre populaire du gouvernement, l'homme qui connaît l'éducation nationale et qui est donc à l'abri des frondes, le voilà confronté à une contestation qui monte, à des incompréhensions, à des colères qui se traduisent parfois dans la rue et que le ministre a parfois qualifié, enfin la raison pour laquelle cette fronde est montée. Vous avez parlé, monsieur le ministre, parfois de bobards qui circulent sur les sujets du moment et on aura l'occasion d'y revenir. En jeu, en tout cas, le projet de loi École de la confiance qui est discuté au Sénat à partir du mois de mai, l'instruction obligatoire à 3 ans, le rapprochement parfois des écoles et des collèges, le renfort d'assistants d'éducation, les pions, etc. En jeu aussi la réforme du bac, les options avant la terminale. Bref, on a du pain sur la planche. On est parti et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Je vous salue d'abord, monsieur Blanquer. Merci beaucoup de votre présence au téléphone sonne.
Bonsoir,
et je vous présente Eric, qui est le premier à vous parler ce soir. Bonsoir, Eric.
Oui, bonsoir.
Eric, on vous entend d'assez loin, c'est curieux, mais allez-y.
Oui, bonsoir. En fait, la question est très simple.
Attendez, Eric, excusez-moi, mais on est mal parti, oui. Vous et moi. Il faut vous mettre normalement devant le téléphone, je ne sais pas, mais là, je vous entends très très mal.
Oui, là, vous m'entendez mieux.
Voilà, on enlève le... Voilà.
Oui, vous m'entendez mieux ?
Ben, pas très, en fait, pour dire les choses. C'est un peu dommage.
Ah, je suis désolé.
Eh ben, écoutez, on va vous laisser vous... Honnêtement, Eric, on va vous laisser nous rappeler. Bonsoir, Richard.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute.
Alors, moi, c'était à propos de la suppression du dispositif plus de maîtres que de classes, qui était bénéfique à tous les niveaux, hein, cycle 2 et cycle 3, et qui est supprimé totalement dans le département dans lequel je suis. Et bon, je comprends bien le système de classes dédoublées, c'est PCE1, mais on a un peu l'impression que à moyen constant, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Voilà.
C'est quoi votre département, Richard ?
L'Aude.
D'accord. Merci beaucoup pour votre question et Jean-Michel Blanquer va pouvoir vous répondre. Est-ce qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul ?
Non. Nous créons des postes à l'école primaire. Ne l'oublions pas, c'est 2300 postes à la rentrée prochaine. Alors même qu'il y a une baisse démographique en France, il faut le rappeler, c'est d'ailleurs une mauvaise nouvelle en soi. Il y a 50 000 élèves en moins chaque année en ce moment. Donc dans une vision purement arithmétique, il y aurait moins de postes chaque année à l'école primaire. Et non seulement il n'y en a pas moins, mais il y en a plus. On en crée 2300. C'est ce qui me permet de dire qu'à chaque rentrée scolaire, de 2017 à 2022, le taux d'encadrement dans l'Aude, comme dans chaque département de France, va s'améliorer. Et nous permet d'avoir le dispositif de division des classes de CP et de CE1 par deux en REP et en REP+, mais aussi de soutenir les écoles rurales, parce que c'est évidemment une priorité. S'agissant du dispositif plus de maîtres que de classes, c'est vrai qu'on l'a réduit, mais ça n'est pas vrai qu'on l'a fait disparaître. Donc on peut pas dire qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul ou qu'on fait les choses à moyen constant, puisqu'il y a les moyens supplémentaires que je viens d'indiquer, mais c'est exact de dire qu'on en fait moins. Alors honnêtement, dans l'Aude, je n'ai plus... Si vous le dites, bien sûr, c'est certainement vrai, mais ça a peut-être disparu, mais dans la plupart des départements, il en reste. Je rappelle que ce dispositif, au départ, tel qu'il a été conçu, était fait justement pour les classes que nous visons avec le dispositif de dédoublement, c'est-à-dire le CP et le CE1, et que la tendance que nous avons imprimée maintenant est de reconcentrer les plus de maîtres que de classes sur ce cycle-là, c'est-à-dire un cycle que je considère comme essentiel, celui où se joue énormément de choses, et notamment l'entrée dans la lecture, l'écriture et le calcul.
Alors justement, est-ce qu'on peut rentrer dans le concret de ce fameux dédoublement ? Combien de classes ? Est-ce qu'on est arrivé à 100 %? On n'y est pas encore, évidemment. Où ça pêche ? À quels endroits on n'arrive pas à le faire ? Et à quels endroits aussi, parce que ça s'est vu, on est obligé d'y revenir, parce qu'on manque de profs et de places aussi.
Il n'y a qu'une exception. Alors, d'abord, le dispositif arrive à maturité à la rentrée prochaine, donc en septembre prochain. Il touche 180 000 élèves cette année, il en touchera 300 000 à la rentrée prochaine. Et il y a une petite exception, parce que ça n'est que vrai que pour quelques endroits, au sein de la Seine-Saint-Denis, qui par ailleurs est le département qui bénéficie de loin le plus du dispositif. Il y a quelques endroits où on ne va pas réussir à le faire, essentiellement pour des raisons pratiques. Mais c'est pour la rentrée suivante, évidemment, qu'on arrivera à la maturité complète en Seine-Saint-Denis. Mais c'est en raison de l'ampleur de ce qu'il y a à faire aussi en Seine-Saint-Denis.
Sonia Princey, allez-y.
Mais tout le dispositif n'est pas encore déployé, puisque vous-même, vous donniez le chiffre de 75% de classes de CE1 dédoublées à la rentrée dernière, et non pas 100%. Donc déjà, on voit bien que le dispositif n'est déjà pas allé au bout cette année, et donc va difficilement aller jusqu'au bout l'année prochaine.
Alors, si, il va aller jusqu'au bout à la rentrée prochaine. Encore une fois, les chiffres que je vous ai donnés, vous pourrez les vérifier à la rentrée prochaine. On passe de 180 000 à 300 000 élèves, autrement dit, deux générations d'élèves de CP et de CE1, donc environ 150 000 par génération, ce qui fait 20% d'une génération. Il peut y avoir quelques exceptions, je vous l'ai dit, en Seine-Saint-Denis. J'entends de temps en temps ce reproche que vous venez de faire. Je trouve que c'est un peu un hommage à cette politique, c'est-à-dire qu'il y a de l'impatience vis-à-vis de cette politique publique. Ça montre bien qu'elle est attendue, qu'elle est réussie. Après, parfois, vous savez, quand on est arrivé en 2017, en juin 2017, plein de gens ont dit, et on peut reprendre les émissions de radio de l'époque, ils n'y arriveront pas à le faire pour septembre 2017. Il y avait ce genre de scepticisme. Nous l'avons fait pour 60 000 élèves, pour les CP de REP+. Donc, nous avons fait 180 000 à la rentrée dernière et nous allons faire 300 000 à la rentrée suivante. Donc, on pourra toujours trouver un endroit où, par exemple, on est obligé d'avoir mis deux professeurs pour 24 élèves, des endroits où on est obligé de tenir compte du réel, mais ça reste les exceptions. La grande réalité de cette politique publique, c'est qu'elle s'est faite et qu'elle est en train de donner satisfaction, je crois, aux élèves, aux familles et bien sûr aux professeurs.
Allez, je voudrais qu'on avance au standard parce qu'il y a beaucoup de monde. Bonsoir Benoît.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Oui, je suis représentant de parents d'élèves au collège de Rémalard, qui est juste à côté de l'école de Berduis, où Monsieur Blanquer et Monsieur Macron sont allés il y a un an. Est-ce que c'est normal qu'à l'école de la confiance, l'année prochaine, au collège de Rémalard, nous ayons deux classes de 5e à 30 voire 31 élèves en zone rurale pas très favorisée? Voilà.
Est-ce que vous vous souvenez de cette école, Monsieur Blanquer, et de ce passage-là?
C'est près de Laval, c'est ça?
Non, près de Berduis.
Près de Berduis, d'accord. Pardon, excusez-moi. Écoutez, j'ai pas en tête le cas particulier du collège. Ce que je sais, c'est que pour les classes de collège, a fortiori en milieu rural, on est généralement en dessous de 30. Donc, je veux bien regarder votre cas. Pourquoi on en est là? Mais c'est aujourd'hui relativement rare d'être à 30. Ça peut arriver. Hein, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais je visite beaucoup de collèges ruraux. Je vois souvent plutôt des classes à 24 que des classes à 30. Mais parfois, il y a des effets de seuil. Mais je m'engage à regarder le cas du collège.
Une question de Christine sur franceinter.fr. Quel sera le rôle des adjoints aux principaux dans le cadre des fusions, parfois, nous demande-t-elle, entre les collèges et les lycées? Les fameux adjoints, donc non. Ceux qui seront, en gros, les anciens directeurs d'école, si je comprends la question de Christine, l'ancien directeur de l'école, que devient-il et quel est son rôle si on a fusionné avec les collèges?
Bon, alors, là, vous avez dit collège-lycée, mais vous vouliez dire école-collège.
Autant pour moi.
Je pense, et il faut évidemment que je fasse un développement sur ce point parce qu'il a beaucoup enflammé les esprits et je pense qu'il est
la question de Christine, je crois.
Il est à l'origine d'un grand malentendu. Hein. Je voudrais d'abord dire, en préambule, que l'école primaire est ma priorité, je l'ai affiché depuis le début. C'est d'ailleurs aussi une priorité budgétaire, c'est ce que j'ai dit en répondant à la question précédente. Et il n'y a strictement aucune menace sur l'école primaire, aucune menace sur la fonction de directeur, aucune menace sur l'école maternelle. Tout à l'heure, vous avez fait référence au mot bobard que j'avais utilisé. Je l'ai utilisé essentiellement pour ce qui a été dit ces derniers jours sur l'école primaire. Sur le secondaire, on peut avoir tout simplement des désaccords et j'y répondrai. Mais sur l'école primaire, on a enflammé les esprits sur des bases fausses. Et je veux dire à tous ceux qui nous entendent que mon but fondamental, c'est notamment de sauver les écoles primaires rurales, contrairement à ce qui a été dit. Et que la disposition que nous avons mise, que de toute façon nous allons amender pour rassurer, parce qu'il y a un malentendu, et j'ai sans doute une part de responsabilité dans ce malentendu. Mais il n'a jamais été envisagé une seule seconde, et on peut se référer au débat parlementaire que j'ai eu au moment du vote de la loi à l'Assemblée nationale, il n'a jamais été question une seule seconde d'avoir une politique de persécution des écoles primaires rurales, et encore moins une politique d'affaiblissement des directeurs d'école. Il faut des directeurs d'école, c'est une fonction essentielle, c'est une fonction qui justement n'est pas assez reconnue aujourd'hui. J'ai voulu ouvrir ce dossier pour permettre de renforcer la fonction de directeur d'école, c'est certainement pas pour l'affaiblir, et donc on a besoin du directeur ou de la directrice dans une école, on ne forcera personne a fusionné.
D'accord. Alors attendez.
Parce et que... encore moins quiconque a déménagé. Parce D'accord. que comme tout le monde, je veux que ce soit parfaitement clair. Donc après.
Mais dans, quand il, lorsqu'il y aura, appelons ça fusion ou je sais pas quel est le terme que vous
oui,
voulez employer.
Hein.
Lorsqu'il y aura rapprochement ou fusion, le directeur de l'école dans ce grand établissement qui sera désormais école ou collège, qu'est-ce qu'il devient? Quel sera son rôle? C'était le sens de la question de Christine.
D'abord, on va réécrire l'article et y travailler avec les organisations syndicales et les sénateurs et les députés pour avoir quelque chose qui vraiment fasse consensus dans notre pays, parce que n'oublions pas que cette idée-là est une très ancienne idée que personne n'a encore mis en œuvre jusqu'à présent, enfin que personne n'a inscrit dans la loi jusqu'à présent en France, mais qui par contre sur le terrain repose sur quelques expérimentations intéressantes. Le but à chaque fois, c'est vrai en, particulièrement en milieu rural, mais ça peut être vrai en milieu urbain, c'est évidemment de créer un continuum au service de l'élève sur l'ensemble de ce qu'on fait pour cet élève, sur le plan pédagogique comme sur le plan éducatif. Pensez par exemple à la politique de santé que vous avez entre une école primaire et un collège, vous avez un intérêt à un continuum. Faut jamais perdre le sens, on fait pas ça. C'est certainement pas pour des impératifs de gestion en tout cas, hein, puisque ça risque de coûter plus cher que ce que ça coûte aujourd'hui. En revanche, c'est pour des impératifs de tout simplement de qualité de ce qu'on offre sur le plan pédagogique et éducatif. Dans un tel contexte, ça ne peut reposer que sur le volontariat. Je l'ai dit, on l'écrira entre les gens concernés, c'est-à-dire la communauté éducative, les professeurs, les directeurs, et aussi le maire, qui a évidemment un rôle essentiel à jouer. Et lorsque ça se fera, alors je pense, dans ce que l'on va écrire, qu'on offrira des modalités souples. Mais en tout cas, ça ne fera jamais disparaître le directeur. Éventuellement, il peut avoir le statut de principal adjoint, ce qui d'ailleurs permet d'améliorer son statut.
Et son salaire.
Mais ce sera sur et son salaire assez nettement là dans l'occurrence. Et donc c'est une opportunité qui s'offrira à ceux qui le voudront.
Mais comment vous expliquez que ça a été si mal perçu? Alors vous avez dit que vous l'aviez peut-être mal expliqué, probablement. Écoutez, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une envie de ce genre de rapprochement entre l'école et le collège ou pas en fait?
Cette envie, elle existe. Je pense qu'elle a beaucoup diminué ces derniers jours, tellement on a fait un portrait épouvantable de ça. Alors que, encore une fois, les gens qui connaissent bien le sujet du système scolaire français, je dis ça devant Sonia Bourane, qui voit très bien de quoi je parle, savent que c'est une idée qui est là depuis des décennies, que des syndicats ont pu défendre, que des penseurs du système éducatif ont fait, que des sujets sur lesquels j'ai travaillé. Et on sait que ça peut être bon pour les enfants. Et c'est pour cette fois-ci, nous le faisons. Ça a été totalement caricaturé dans le débat public. On a dit qu'on allait forcer les choses, qu'on allait supprimer les directeurs d'école, alors que c'est tout le contraire que nous voulons. Donc là, je comprends qu'il y a un grand malentendu, c'est pour ça que je dis qu'on va réécrire ça, mais dès le début, si on veut honnêtement regarder ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale sur ces sujets, j'ai tout de suite dit qu'il fallait un consensus local et que c'était forcément sur la base du volontariat que cela se produirait. Donc je pense que dans le futur, c'est difficile de répondre à votre question, mais j'imagine que dans un premier temps, il y a peut-être un tout petit pourcentage de lieux où les gens voudront le faire, et je ne cherche pas. Je serai le premier à être contre la généralisation d'un tel système, d'ailleurs. Ça doit être un outil dans une boîte à outils, pas davantage, et ça doit nous permettre tout simplement de rendre un meilleur service public pour nos élèves, notamment en évitant cette césure trop forte, CM2-6e, dans laquelle se perdent souvent les élèves les plus défavorisés.
Et au fond, c'est une question connexe que celle de Nicolas sur franceinter.fr en ce qui concerne la réforme en cours. Pourquoi n'a-t-on pas créé une plateforme internet sur laquelle les professeurs auraient pu laisser des suggestions ou des propositions? Je sais que c'est un travail difficile à traiter, nous dit Nicolas, mais n'est-il pas juste de prendre en considération l'opinion des personnes qui sont sur le terrain? Bref, ce qu'on vous dit, c'est où a été la concertation?
Non, vous savez, le sujet est devenu très fort dans le débat public depuis environ 15 jours, mais ce qui est frappant, c'est que même au moment du débat à l'Assemblée nationale, ça ne suscitait aucune réaction particulière. Et les canaux pour réagir, y compris via les organisations syndicales, existent bel et bien. Donc, on a un effet d'opinion que les spécialistes peuvent analyser. Je n'ai pas peut-être tous les éléments pour le comprendre, mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de force existantes dans notre société qui ont envie de dépeindre en négatif même les choses les plus positives et qu'elles ont réussi quelque chose en faisant croire. Quand on a réussi, si j'ose dire, il y a deux semaines à ce que des parents n'envoient pas leurs enfants à l'école maternelle pour protester contre le fait qu'on allait fermer les écoles maternelles, ce qui évidemment est faux, ça signifie qu'on a déscolarisé des enfants pour protester contre une mesure qui n'existe pas. Voilà pourquoi j'ai parlé de Bobard, et voilà pourquoi c'est en réalité assez scandaleux, et voilà pourquoi l'intérêt d'une émission comme celle-ci et des débats qu'on doit avoir, c'est de se baser sur des choses exactes. Par ailleurs, je montre, je crois, souplesse et ouverture sur ces sujets, c'est-à-dire sur l'idée des établissements publics des savoirs fondamentaux. Oui, nous allons réécrire l'article. Oui, ma porte est ouverte à toutes les organisations syndicales pour cette réécriture, et ainsi qu'aux parlementaires, de façon à faire quelque chose qui fasse consensus dans la société française et qui soit au service des gens, sur la, et donc notamment sur la base du volontariat.
On va y venir à l'école maternelle avec une question dans un instant. Sonia Princet, juste avant.
Oui, vous avez, il y a aussi un autre élément, c'est que cette disposition a été rajoutée. Ce n'était pas prévu au départ dans votre projet de loi. Ça a été rajouté et donc ça a surpris un petit peu tout le monde. Les enseignants ont eu l'impression qu'on allait leur imposer cette disposition sans qu'il y ait aucune concertation auparavant.
Oui, mais c'est ça aussi qui est un peu étonnant, c'est que, si vous voulez, j'ai simplement fait quelque chose de basique, si vous me permettez l'expression, qui est j'ai joué le jeu de la démocratie parlementaire.
Un amendement, c'est-à-dire, parfois, c'est un cheval de Troie, vous
d'habitude,
savez.
On dit que les projets arrivent tout ficelés à l'Assemblée nationale et que ça montre bien que l'exécutif domine sur le législatif. J'ai dit tout le contraire assez nettement avant, et d'ailleurs je continue à le dire pour le Sénat. C'est-à-dire, je dis, moi j'arrive devant une Assemblée en étant ouvert, non seulement d'ailleurs à ma majorité, mais même aux oppositions et aux idées de l'opposition. Et aux idées de la majorité, bien sûr. Et donc, et d'ailleurs, il y a dans l'opposition et dans la majorité des gens qui pensent que c'est une bonne idée. Et donc, cet amendement est arrivé. Il est arrivé en commission, dans des débats qui sont publics, que bien entendu, par exemple, les organisations syndicales voient très bien. Elles ont la possibilité de réagir dans ces moments-là. Et donc, voilà. Par ailleurs, nous sommes dans un pays bicaméral, donc il y a c'est que maintenant il y a la réaction à cet amendement parlementaire. J'entends cette réaction. Je comprends l'émoi général, vu la perception qu'ont pu en avoir aussi bien les élus locaux que les professeurs des écoles. Je les comprends. Je leur dis que je suis avec eux, qu'on est tous dans le même bateau pour faire réussir les élèves, et que donc on va modifier cet article pour faire quelque chose qui soit utile et rien d'autre.
Claire, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y Claire, on vous écoute.
Ben merci pour vos émissions que nous écoutons depuis très longtemps. Nous aimerions juste savoir si la disposition qu'on a entendue sur les ondes il y a déjà quelques mois concernant la scolarisation obligatoire des enfants dès l'âge de 3 ans va entrer en vigueur à partir de la rentrée prochaine.
Et voilà qui est clair. Claire, merci beaucoup. Monsieur Blanquer, oui. Dès la rentrée.
Bonsoir madame. L'instruction obligatoire est une réalité à partir de la rentrée prochaine. Il y a des endroits où c'est plus difficile à mettre en œuvre immédiatement, comme notamment Outre-mer, en Guyane et à Mayotte, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont concernés. Mais c'est une mesure qui nous permet d'avoir à peu près 25 000 enfants de plus à l'école maternelle à la rentrée prochaine. Et c'est évidemment ce que nous faisons. Je rappelle que c'est l'instruction obligatoire, que l'objectif, il est, et ça il faut le rappeler aussi, comme sur plusieurs autres dispositions de cette loi, il est profondément social, c'est-à-dire d'amener à l'école maternelle des enfants qui souvent sont issus de milieux défavorisés et qui n'y vont pas aujourd'hui. Et c'est vrai dans certains territoire de la République, et notamment d'ailleurs Outre-mer, comme je le disais. Et donc, c'est cela que nous visons au travers de cette mesure.
On parle de 26 000 enfants, c'est ça? C'est à peu près ce chiffre-là, puisqu'il y a quand même une grosse majorité de gens, de parents qui mettent leurs enfants à l'école en 3 ans. Qui finance les maternelles privées? C'est la question qu'on vous a posée à de multiples reprises autour de ce chiffre des 3 ans. La réponse,
La réponse, c'est que tout le monde, là aussi, on se focalise sur un petit élément, en perdant à chaque fois le sens. D'abord, premièrement, le sens qui va d'ailleurs dans le sens de l'histoire, puisque c'est la quatrième fois qu'il y a en plus d'un siècle et demi qu'il y a une mesure sur l'instruction obligatoire. C'est donc un pas que je considère comme très important. C'est entre parenthèses une mesure qui avait par exemple dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est une mesure qui est en général considérée comme très sociale. Et cette mesure, elle a une conséquence constitutionnelle. C'est qu'à partir du moment où on scolarise non plus à 6 ans, mais à 3 ans de façon obligatoire, alors en effet, toute une série de choses deviennent obligatoires de ce faisant. Or, il y a quelque chose qui est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans, c'est qu'une commune paye un forfait à une école privée ou à une école publique d'une commune voisine où les parents ont décidé d'envoyer leurs enfants. Cette obligation fait que les communes vont avoir un surcoût que nous estimons environ 100 millions d'euros. Et constitutionnellement, l'État est obligé de rembourser aux communes, ce que donc nous ferons. Tout cet argent ne va pas au privé, comme je l'ai entendu dire. Plus de 50% de cet argent, c'est pour les écoles maternelles publiques. Et il se trouve que l'autre partie, c'est pour des maternelles sous contrat. Je rappelle que d'ailleurs, quand on est sous contrat, on participe aussi au service public avec un certain nombre d'obligations.
Sonia, avant de retourner au standard.
Est-ce que vous n'allez pas financer votre propre concurrence en finançant le privé?
Non, je ne raisonne pas comme ça. Je rappelle d'ailleurs que depuis que je suis arrivé, c'était depuis juin 2019, 2017, ce qu'on appelle la fuite vers le privé a été garrottée. Il y a eu beaucoup moins que rentrée 2015 et 2016. Je pense qu'un discours positif sur l'école, un discours de service public sur l'école, un discours de modernisation de l'école est la meilleure des recettes pour faire que ce soit le service public de l'éducation nationale qui reste évidemment dans les proportions qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire 80% des élèves. Et c'est un bon équilibre, ce 80-20 que nous avons aujourd'hui, 80% à l'école publique et environ 20% dans l'école privée sous contrat. Je ne considère pas l'école privée sous contrat comme la concurrence, pour reprendre le terme que vous avez utilisé. Simplement, je pense que le système français est arrivé à un équilibre qui correspond à une histoire qui nous est propre et nous n'avons aucun intérêt à forcer les choses dans un sens ou dans un autre.
Un mot sur le hashtag Telson et le salaire des profs. Monsieur le ministre, nous demande-t-on quand est-ce que vous l'augmentez ? En 8 ans, bac plus 5, je suis passé de 1600 à 1850 euros par mois et vous parlez d'heures supplémentaires. On est déjà beaucoup à en faire. Beaucoup de questions autour des heures supplémentaires et beaucoup de gens qui nous disent oui, on fait déjà de toute façon des heures supplémentaires puisque vous avez ouvert à 2 heures supplémentaires. Qu'est-ce qu'on répond à notre ami sur le hashtag Telson ?
Je crois que cette question qu'il a posée est une des questions les plus importantes qui soit. Et qu'en réalité, elle est aussi derrière la mauvaise humeur qu'on a pu sentir ces derniers temps. Et je la prends très au sérieux. Donc oui, il y a un problème de pouvoir d'achat des professeurs, je l'ai tout de suite reconnu. Et oui, nous devons faire quelque chose. Oui, nous avons commencé à faire quelque chose. Ce quelque chose, on peut considérer que c'est insuffisant, mais ça n'est pas rien. Hein. C'est ce qui permet notamment de dire que de 2017 à 2022, un jeune nouveau professeur des écoles gagnera 1000 euros de plus par an grâce aux mesures que nous prenons et que nous finançons. C'est encore plus évidemment pour les professeurs plus âgés. Il y a des problèmes qu'il faut ensuite regarder de près, notamment quand on fait des comparaisons internationales. Et le problème est notamment à l'école primaire et il est notamment pour les jeunes professeurs. Donc les efforts futurs vont porter là-dessus. Mais nous allons, en 2019, ouvrir un très grand dialogue social sur cette question qui doit nous permettre d'avancer en ayant une vision à court terme, à moyen terme et à long terme. Le sujet des heures supplémentaires que vous avez évoqué est un élément parmi d'autres. Il y a l'élément structurel que je viens de mentionner. Hein, c'est autour de 600 millions d'euros quand même que nous y consacrons en cette année 2019. Mais l'évolution de la carrière des enseignants et l'évolution de leur pouvoir d'achat.
Vous les entendez dire, il y a ceux qui disent « mais moi ça m'intéresse pas, en fait, les heures supplémentaires », et puis ceux qui disent « attendez, moi de toute façon j'en fais déjà, et l'important c'est peut-être plutôt d'avoir plus de profs que de demander à ceux qui sont déjà là de faire des heures supplémentaires ». C'est ça le sens de la question.
Plus de professeurs, c'est ce que nous faisons dans le premier degré, et dans le second degré, c'est plus d'heures supplémentaires. Alors, il y a ceux qui disent ça, mais il y en a d'autres qui pensent autrement. Il y a des professeurs qui sont très contents qu'on mette plus d'heures supplémentaires dans le système. Et je rappelle qu'elles sont défiscalisées depuis les mesures prises par le président de la République en décembre. Et donc, j'entends ceux qui disent qu'ils n'aiment pas les heures supplémentaires, mais je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui les aiment.
Sonia.
Mais vous savez aussi que les heures supplémentaires, c'est très inégalitaire, puisque, par exemple, on a des chiffres très précis qui montrent que les femmes et les jeunes professeurs font beaucoup moins d'heures supplémentaires. Par exemple, chez les professeurs certifiés, 73% des enseignants effectuent en moyenne 2 heures supplémentaires, mais chez les professeurs agrégés, qui ont des salaires plus importants, ils font déjà 3 heures. Les professeurs des classes préparatoires font en moyenne 4 heures supplémentaires. On voit bien que ce sont déjà des professeurs qui ont des salaires élevés qui peuvent se permettre de faire des heures supplémentaires.
Oui, mais alors je vous dirais 2 choses. Premièrement, je ne fais pas des heures supplémentaires l'alpha et l'oméga de ce que j'ai à faire en matière de pouvoir d'achat. C'est un élément parmi d'autres.
Hein. C'est quand même ce que vous mettez en avant pour compenser les suppressions de postes. 2000 suppressions de postes.
Oui, mais ça, je le mets en avant, non pas au titre du pouvoir d'achat, mais au titre du maintien d'un bon taux d'encadrement au collège et au lycée. En revanche, au titre du pouvoir d'achat, je rappelle que nous avons créé depuis la rentrée dernière une prime en Ré+, qui est donc de 1000 euros cette année. Pour les 48 000 personnes qui travaillent en Ré+, qui va être de 2 000 euros à partir de la rentrée prochaine, ça devient donc très substantiel. C'est des mesures aussi comme ça que nous savons prendre, je dirais, de façon sectorielle. Sur ce que vous venez de dire sur les heures supplémentaires, la situation que vous venez de décrire, c'est la situation actuelle, c'est pas la situation future. Et notre nouvelle politique plus forte d'heures supplémentaires peut permettre justement de compenser certains des points que vous venez de dire. Mais encore une fois...
Mais comment vous allez convaincre les jeunes professeurs qui ont déjà beaucoup de travail à préparer leurs cours et les femmes qui ont souvent aussi d'autres charges de faire davantage d'heures supplémentaires?
La seule contrainte, c'est 2 heures de supplémentaires, mais au-delà, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Ce qui est d'ailleurs un élément de souplesse appréciable. Après, chacun fait des choix de vie évidemment différents.
Bonsoir Marielle.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Eh bien, merci beaucoup de prendre mon appel. Monsieur Blanquer, je suis professeur en lycée, mais ma question est la suivante. Comment vous faire confiance alors que ce que vous dites n'est pas la réalité sur le terrain ? Les spécialités, par exemple, les trois spécialités au choix de l'élève, mais c'est pas toujours vrai, ce n'est pas toujours possible. Il y a des élèves qui veulent faire des spécialités qui ne sont plus dans l'établissement. Moi, dans mon établissement, il y a une spécialité qui vient d'être supprimée, alors que certains élèves sont venus pour la faire.
Laquelle?
Il y a la spécialité art plastique. Certains élèves sont venus dans mon établissement pour la faire et là elle est supprimée. Donc ils sont obligés soit de changer d'établissement, mais ils ne sont pas prioritaires, soit aller peut-être en réseau. Mais vous vous rendez compte, déplacer des élèves, quid des enfants handicapés par exemple.
Élèves qui sont venus, que voulez-vous dire? Ils se sont inscrits en seconde dans votre lycée parce qu'ils pensaient qu'il y aurait art plastique l'année prochaine?
La spécialité art plastique depuis très longtemps.
Mais ça n'existait pas avant les enseignements de spécialité.
Mais
Il y avait déjà des options.
Art plastique.
Et donc vous dites que l'option lourde a disparu de votre lycée alors?
Oui, l'option lourde a disparu. Hein.
Parce qu'il y avait combien d'élèves qui l'a demandé?
Ah ça je peux pas vous dire, je ne suis pas professeur d'art plastique, mais là déjà il y a eu quand même une rupture de contrat pour les familles. D'autre part, comment expliquez-vous que certains établissements donnent des triades alors que normalement c'était uniquement le choix de l'élève?
Alors,
on est dans la réforme du lycée et pour expliquer aux gens qui nous écoutent, les choix à partir de la seconde qui doivent amener jusqu'à la terminale.
Donc juste pour préciser peut-être des triades, vous voulez dire des combinaisons déjà prédéfinies de trois options.
Je vous en prie, Marielle. Les triades de spécialité. Vous avez dit l'autre jour à Monsieur Demorand et Madame Ben Saïd qu'un élève pouvait se tromper, qu'il pouvait en terminale changer, mais ça c'est pas du tout prévu.
Si, c'est dans les textes,
alors,
madame.
On va y venir. Chaque chose en son temps. J'ai pas oublié votre question, Marielle. Allez-y.
Je vais donc vous répondre, madame, avec sérénité. Je pense qu'il y a de la colère dans votre voix et je peux l'entendre. En même temps, je voudrais qu'on n'oublie pas, quand on parle de ces sujets-là, les progrès que ça représente pour un élève de seconde de cette année par rapport à l'élève de seconde de l'année précédente. On pourra toujours voir telle ou telle imperfection dans la nouvelle formule, et je peux les entendre. Mais il faut aussi comparer ce que l'on a avec ce que l'on avait. Il est indéniable que la formule nouvelle, et elle a été conçue pour ça, offre beaucoup plus de choix dans toutes les configurations à tous les élèves de seconde de France. Alors, ensuite, il y a des politiques d'établissement, bien sûr, qui peuvent être variées. Donc, il faut regarder un établissement dans l'entièreté de sa réalité. C'est pour ça que je vous posais les questions sur votre établissement tout à l'heure. Mais ce qui est certain, c'est que, encore une fois, tous les élèves de seconde ont beaucoup plus de choix. Vous avez dit, est-ce que c'est normal qu'un établissement impose des triades? Vous les avez appelées ainsi. Normalement, non. C'est-à-dire que ce que chacun doit comprendre, qu'on offre entre 7 et 12 spécialités par établissement. Disons que sur une base de 7 en général. Si on fait la combinaison de toutes les spécialités, ça donne un chiffre astronomique que, évidemment, aucun établissement ne peut proposer pour des questions d'organisation. C'est une évidence depuis le début. Et je l'ai reconnu depuis le début. Ce qui fait qu'en fait, on arrive dans chaque établissement à, en général, une vingtaine, voire une trentaine de combinaisons possibles. Donc, c'est beaucoup plus que les trois voies qui existaient auparavant. C'est évidemment moins que la centaine de combinaisons à laquelle on pourrait penser quand on pense à toutes les combinaisons. Donc, bien sûr, on peut se dire... par exemple, dans votre établissement, je ne sais pas combien on propose de combinaisons à trois, mais j'imagine bien que c'est plus que trois. C'est donc forcément un progrès par rapport à l'année précédente. Mais surtout, je pense que c'est un chiffre de l'ordre de 15 à 20 au moins. Et donc, c'est un choix important pour le lycéen quand même.
Pour résumer quand même, en partie ce que dit Marielle, mais ce que disent plein d'autres questions derrière, qu'est-ce qui se passe dans les lycées? C'est le cas de Nathalie, par exemple, qui nous appelle, qui ne peuvent pas proposer toutes les options. Parce que changer de lycée pour avoir accès aux options, c'est pas donné à tout le monde non plus.
Et puis je voudrais répondre à la deuxième question que me posait l'auditrice.
Mais changer d'option au milieu.
C'est ça.
Bon alors allons-y si vous voulez.
Non,
maintenant,
comme vous voulez.
C'est pas grave.
Je vais y répondre. Voilà, j'y réponds.
On change d'option au milieu.
Si vous voulez, j'ai vu sur les réseaux sociaux que, vous savez, on se fait quand même beaucoup insulter sur les réseaux sociaux et quand je suis passé chez Nicolas Demand, j'ai vu qu'effectivement on disait que je disais n'importe quoi parce que j'avais dit qu'on pouvait changer d'option entre la première et la terminale. Chère madame, c'est dans les textes et des textes que bien entendu je vise. Donc oui, c'est possible, je le réaffirme et bien entendu, je dis des choses qui sont assez assurées quand je les affirme. Oui, on peut changer entre la première et la terminale. C'est évidemment pas recommandé. Il est préférable de prendre en terminale deux des deux parmi les trois matières qu'on a
pris
en première.
Parce que ce qu'on a compris, c'est qu'on perdait un an.
C'est pas recommandé. Non. C'est de même que si vous voulez. Autrefois, quand vous êtes, si vous êtes un élève de S, vous pouvez passer de première S en terminale S, en terminale ES. Pardon, ça existe. Ça doit rester l'exception. C'est pas ce qu'on recommande, mais c'est une possibilité. Je pense pas qu'il faille y passer du temps, mais c'est en tout cas c'est une possibilité juridique qui ensuite se juge. C'est le conseil de classe qui peut juger évidemment d'une chose pareille, éventuellement organiser des rattrapages dans la discipline concernée, mais. C'est un exemple. Enfin, ça doit être resté un cas très particulier.
Non, ça veut dire pas qu'il faut histoire, être. Non, cas... ce que ça veut dire, c'était ça qui vous était reproché, je pense. Ça veut dire qu'il faut être carrément sûr de soi dès la seconde pour pouvoir faire de vrais choix. Or, quand on est effectivement en classe de seconde, qu'est-ce qu'on sait de ce qu'on veut faire après,
Fabienne Saint-Est,
et du prof qu'on rencontrera en classe de première qui nous donnera envie de faire autre chose.
Si vous voulez, permettez-moi de faire un petit zoom arrière. Nous sommes devant un très grand changement. C'est une très grande réforme, très importante, très profonde. Je trouve donc très normal d'avoir des questions de ce type, comme celle de l'auditrice ou celle que vous venez de poser. Ce que je trouve un tout petit peu regrettable, c'est la tonalité de tout cela. C'est-à-dire que nous avons une aversion au changement qui est quand même très forte. C'est-à-dire que là, c'est quand même, n'oublions pas dans tout ce que nous disons sur le sujet, que nous venons de faire une réforme qui offre beaucoup plus d'opportunités aux élèves. Ça pose plein de questions. Par exemple, la création d'une discipline comme sciences informatiques et numériques, c'est une magnifique innovation. Et je rencontre plein d'élèves de seconde qui sont très heureux. Je rencontre aussi des élèves de première et de terminale qui me disent « Ah, j'aurais vraiment aimé avoir ce genre de choix quand j'étais en seconde ». N'oublions pas qu'il y a tout ça. Alors ensuite, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est tout l'inverse. La situation que vous décrivez, c'est celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous êtes un élève de seconde, vous vous prédéterminez fortement en choisissant S, ES ou L. C'est un paquet standard qui prédétermine des choses. Par exemple, si vous ne prenez pas S, vous fermez déjà, dès la classe de première, beaucoup de choses. Alors que là, le message fondamental, c'est de dire « Prenez les disciplines qui vous plaisent ». Il n'y a pas un code, il n'y a pas quelque chose de caché. C'est prenez ce qui vous plaît, comme ça vous pourrez l'approfondir.
Si on l'a dans le lycée, Monsieur Blanquer.
Et donc, quand on a 15 ans, on est beaucoup plus capable de dire ce qui nous plaît, nos envies, nos désirs, que de dire je veux être architecte ou mécanicien. Donc c'est précisément parce qu'on prend en compte le fait que la très grande majorité des jeunes de 15 ans n'ont pas une idée précise de leur futur métier que on leur demande de faire des premiers choix autour des disciplines et pas autour de voix qui sont des paquets tout faits.
Sonia.
Mais ce qui pose problème quand même, c'est que maintenant, c'est dès la fin de la troisième que les élèves vont devoir choisir leur spécialité. C'est plus à la fin de la seconde, puisqu'ils vont devoir choisir leur lycée en fonction de leur spécialité. Ça pose quand même un problème.
Non, parce que vous avez déjà un panel de spécialités qui est commun. Alors d'abord, rappelons que dans les classes de première et terminale, il y aura toujours un bloc commun d'heures qui reste le même pour tous et qui est la majorité des heures. Ne l'oublions pas, parce qu'on parle beaucoup des enseignements de spécialité, mais il y a ce bloc d'heures qui est le même pour tous. Ensuite, ce que vous venez de décrire, on pourrait le trouver aujourd'hui, si vous voulez. Vous avez des lycées en France qui font pas S, ES et L, qui font par exemple que S et ES.
C'est quand même rare.
C'est 81% des... Enfin, donc il reste 18% des lycées qui sont dans la situation que je viens de décrire. C'est beaucoup moins de lycées aujourd'hui qui sont dans la situation de faire moins de cette spécialité. Et la plupart des élèves sont intéressés par 3 des 7 spécialités. Donc, en résumé, certes, on peut choisir un lycée en fonction de spécialités qu'on aime, et après tout, pourquoi pas. Par exemple, si c'est des spécialités un peu particulières, se dire oui, je vais aller dans tel lycée parce qu'il y a cette spécialité particulière. Je pense que c'est plutôt un progrès qu'une régression.
Et précisément...
On offre, très honnêtement, on est en train d'ouvrir des possibilités beaucoup plus fortes qu'avant, tout
encore
simplement.
Encore une fois, lorsque les lycées sont en mesure de les proposer, je voudrais qu'on écoute Nathalie qui nous a appelé. Bonsoir Nathalie.
Oui, bonsoir.
Allez-y Nathalie.
Bonsoir Monsieur le Ministre,
je suis
chef d'établissement, je suis proviseur d'une cité scolaire en milieu rural. Et j'ai donc un tout petit lycée de 400 élèves avec une centaine d'élèves de seconde qui vont passer en première. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'offrir 7 enseignements de spécialité, les 7 de base, puisque j'ai pas beaucoup d'élèves. Aujourd'hui, j'ai fait mes conseils de classe, j'ai fait un sondage et j'ai fait une prospection sur ce qui m'attend l'année prochaine. Et j'ai par exemple 9 élèves qui demandent l'enseignement de spécialité humanité. Lorsque je me retourne vers les autorités académiques, on me dit qu'à 9, on n'ouvrira pas le groupe. Et lorsque je demande ce que je vais faire et ce que je vais dire aux familles et aux élèves qui ont un projet précis, que j'ai réuni les familles, j'ai parlé du continuum Bac.3, Bac+3, des études supérieures, de Parcoursup, etc. Et ce sont des élèves qui ont tout à fait le niveau pour suivre dans cet enseignement de spécialité. Et lorsque je me retourne donc vers les autorités académiques, on me dit « vous n'ouvrirez pas avec un effectif aussi faible, donc il faudra proposer autre chose. Il faudra également proposer à ces élèves-là et à ces familles-là une place dans un enseignement de spécialité qui ne fait pas partie de leur choix, que vous proposez dans votre établissement et où les groupes ne sont pas complets, parce que de toute façon, ils n'iront pas ailleurs, puisqu'ils seront traités au mois de juillet, une fois que tous les élèves de seconde des lycées d'origine auront été casés. Donc, qui va dire non à ces familles? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autorité académique? La nature de la réforme, ben, elle perd tout sens. Il y a un projet, il y a des perspectives. On a informé les familles, on leur a dit un certain nombre de choses. Les élèves se sont impliqués, se sont engagés. Et aujourd'hui, je vais devoir dire non à ces élèves qui ont choisi l'humanité. Et s'il me reste des places en maths, est-ce que je vais devoir leur proposer de faire l'enseignement de spécialité mathématiques?
Merci beaucoup, Nathalie.
Madame le proviseur, aujourd'hui, vous avez les quelles voies vous proposez au lycée?
En série générale, j'ai les séries S, L et ES. Et j'ai des filières technologiques. Et je suis en LPO. Hein, j'ai des sections d'enseignement professionnel.
D'accord. Et vous avez combien d'élèves par classe?
J'ai 32 élèves par division.
D'accord. Même en L?
En L, un petit peu moins.
D'accord, j'imagine, vu les chiffres que vous avez donnés. Évidemment, l'objectif est de ne pas se retrouver dans ce type de situation, notamment d'ailleurs en proposant normalement cette fin de deuxième trimestre, quatre choix et pas trois, de façon à voir aussi, parce que parfois les élèves peuvent hésiter entre deux disciplines, par exemple humanité et langues et cultures anciennes, par exemple, on a ce cas de figure. Au moment où nous parlons, c'est-à-dire nous sommes au mois d'avril, rien n'est déterminé encore sur les choix des rectorats. Donc c'est quand même votre cas peut se produire, hein, je vais pas me prononcer sans avoir tous les éléments. Ça a toujours existé, hein, d'avoir par exemple des séries qu'on est obligé de, par exemple, je le disais tout à l'heure, il y a un pourcentage non négligeable de lycées qui n'offrent pas L alors qu'ils avaient des élèves de seconde qui avaient envie de faire L. Donc bon, on connaît déjà ce genre de situation pour les lycées ruraux. Normalement, la possibilité de choix est beaucoup plus forte pour les élèves de seconde cette année, même en ayant une spécialité en moins si on doit vous en supprimer une. Mais en même temps, le rectorat peut regarder au cas par cas.
Qu'est-ce qu'on fait pour un établissement comme celui de Nathalie, Monsieur Blanquer?
Il y a différents cas de figure. Encore une fois, soit par exemple les élèves, comme ça a été demandé à tous les chefs d'établissement, commence d'abord par proposer quatre choix et c'est parmi ces quatre qu'ils en feront trois. Ensuite, quand on s'aperçoit qu'effectivement il y a trop peu d'élèves qui veulent une formule, on regarde s'ils veulent aller dans un autre lycée. Il y a aussi le CNED qui va faire des enseignements à distance extrêmement attractifs sur chacune des spécialités. Donc il y a quand même des formules, puisque là, quand on a trois spécialités, on peut en avoir deux en présentiel et une à distance éventuellement. Mais encore une fois, c'est au cas par cas que cela doit se résoudre. Mais je ne considère pas que la situation créée soit une régression par rapport à la situation antérieure, parce que par exemple, cet enseignement de spécialité, il n'existait pas auparavant.
Jean-Michel Blanquer, vous nous annoncez que vous avez fermé un établissement pour cause de radicalité?
Alors c'est un tout autre sujet, mais oui. Vous savez, nous étions ce matin avec le Premier ministre et d'autres ministres à Strasbourg sur le sujet de la lutte contre la radicalité dans notre société, sous tous les angles. Évidemment, l'éducation nationale est en première ligne sur ce sujet. Nous avons beaucoup agi, j'ai eu l'occasion de le dire, avec la création de ce que nous appelons les équipes laïcité dans chaque rectorat de France. Et j'en profite pour le dire, chaque personnel de l'éducation nationale qui se trouve devant des problèmes de violation des règles de la laïcité a la possibilité, au travers d'une adresse dédiée, de signaler ce genre de problème. Nous avons fait plus de 1000 interventions depuis un an, depuis la précédente réunion de ce type que nous avons eue, depuis la création de ces équipes. 1000 interventions qui nous permettent de dire que l'institution est derrière chacun de ses membres quand il y a des problèmes de ce type. Nous sommes donc à l'offensive et pas sur la défensive. Par ailleurs, dans l'intervalle, nous avons voté la loi Gatel, qui m'a permis de multiplier par deux les refus d'ouverture d'école à la rentrée dernière, et notamment celle qui était inspirée par le salafisme.
Ça veut dire combien on en refuse par an?
Ça veut dire, alors, c'est autour d'une dizaine, si vous voulez, mais c'est quand même un chiffre.
C'est
quand même 10. Et là, effectivement, je viens de prendre la décision sur les bases juridiques et concrètes que j'avais de fermer une école d'inspiration salafiste dans l'académie de Grenoble. Nous réaffecterons les 40 élèves concernés au retour des vacances, mais c'est, je crois, un exemple du fait que nous avons pris le taureau par les cornes sur ce sujet qui est grave, puisque nous avons noté qu'au cours des dernières années, il y a eu le développement de structures scolaires ou proto-scolaires inspirées par des idéologies radicales. Et évidemment, nous voulons empêcher cela et c'est ce que nous faisons.
Pardon de vous donner 30 secondes pour répondre à cette dernière question. Il y en a beaucoup des profs qui nous posent cette question au sujet du suicide de M. Jean Villot. Vous savez qui est un professeur des écoles qui n'a pas supporté d'être accusé de maltraitance et qui s'est tué. Question, que faire, M. le ministre, pour protéger les agents qui sont en première ligne face à des parents parfois vindicatifs? Est-ce que c'est un problème que vous évoquez et que vous essayez de régler?
Bien sûr. D'abord, j'éprouve évidemment beaucoup de tristesse quand vous évoquez son cas. C'est un drame. La deuxième chose à dire, c'est que nous devons nous prémunir contre cette tendance à la judiciarisation qui existe dans notre société, cette tendance au consumérisme qu'il y a parfois vis-à-vis de l'école. Nous devons aussi prendre chaque affaire comme un cas particulier. Nous devons accompagner nos personnels toujours. Et nous devons donc être bien meilleurs dans le futur que nous l'avons été jusqu'à présent. Et ça signifie qu'il y aura dans le futur des protocoles d'accompagnement d'un professeur à chaque fois qu'il se trouve dans cette situation. Là aussi, c'est toujours la même idée, qu'aucun de nos personnels ne se sente seul face à ce genre de situation. Et enfin, j'invite chacun à regarder d'ailleurs la deuxième phrase de l'article 1 de la loi, parce qu'on a beaucoup critiqué la première phrase qui porte sur la confiance, mais la deuxième phrase a trait au respect que nous devons tous, et notamment élèves et parents d'élèves, aux professeurs. Et ça, c'est pour le coup une base juridique pour mieux protéger nos professeurs.
Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à Sonia, merci à tous pour vos très très nombreuses questions, comme d'habitude.